Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur la radio mondiale. Merci d'être au rendez-vous quotidien. Nous restons en Europe aujourd'hui, sur la scène européenne, avec des Marseillais dans le petit bain européen. Ce soir au Vélodrome, l'OM jouera face à Villarreal en Ligue Europa, en match aller. Une équipe de Jean-Louis Gasset encore en rodage, qui peut compter sur le meilleur buteur de cette compétition, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le sous-marin jaune espagnol a de l'expérience en Ligue Europa. Match retransmis donc sur RFI à partir de 20h59, heure de Paris. En Ligue des Champions, les Merengues et les Citizens qualifiés en quart de finale, alors que le Real Madrid s'est montré poussif, maladroit, contraint au match nul par le RB Leipzig qui ne digère pas bien son élimination. Les Citizens avec Manchester City, une équipe B voire C, a encore gagné contre le FC Copenhague et est aussi donc qualifié en quart de finale. Kylian Mbappé déjà star en Espagne. Au lendemain de son doublé à San Sebastian, la presse sportive semble compter sur son recrutement prochain à la Casablanca de Madrid. Avant, il faudra bien finir à Paris. Et ça dépend de lui, Dominique Sévrac, ou ça dépend de vous ?
Ça dépend un peu de lui et beaucoup de Luis Enrique.
Ouais.
Bonjour Annie.
Bonjour Dominique. Vous arrivez d'Espagne ?
Oui, bien sûr.
Hein, directement ?
Pays Basque.
Oui, vous allez nous raconter ça. Dans ce studio avec vous aujourd'hui, Jacky Bonnevé. Bonjour Jacky.
Bonjour Annie.
Ex-joueur de l'OM, hein. Aujourd'hui c'est important de le dire.
Ce soir.
Ancien joueur et ancien entraîneur aussi, qui a plein d'activités encore dans le monde du football. Et puis Philippe Doucet qui est là. Bonjour monsieur Philippe.
Bonjour madame Annie, content d'être de retour.
Oui, hein, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, mais vous vous baladez partout. Vous n'êtes pas entraîneur ou ancien joueur, mais vous êtes partout quand même. Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission avec David Finzel et Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Et un but de Pierre-Emerick Aubameyang qui égalera Radamel Falcao comme meilleur buteur dans l'histoire de l'Europa League.
Pour aller au bout, c'est fait, c'est l'égalisation de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, voilà le but, le voilà le grand Aubameyang. C'est gagné pour l'OM, qualifié pour les huitièmes de finale.
Honnêtement, nous, ça nous a donné encore plus d'envie de faire un gros match jeudi et on va pas leur donner un match facile.
Un air de fête au Vélodrome ce soir pour un match européen. L'OM reçoit Villarreal, venu donc du sud de l'Espagne. Certes, l'OM dispute la petite Coupe d'Europe, celle de la Ligue Europa, mais le fidèle public du seul club français avoir remporté la Ligue des Champions, Dominique. Il aime ce public, les joutes européennes. La fameuse enceinte marseillaise vivra quand même une soirée particulière. Le virage nord sera en partie vide. L'OM puni aussi d'une très grosse amende pour fumigène lors du précédent match face au Shakhtar Donetsk. Mais il y aura plusieurs milliers d'enfants dans ce virage, déjà impatients. Écoutez, c'est Mino du 10e arrondissement.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre d'aller voir des matchs de l'OM, ça fait rêver.
Mais ouais, quand je vois l'OM, je chante, je fais tout,
c'est trop bien. Moi j'adore l'OM. Bon, des fois ils font des bêtises, ils jouent mal et tout, mais c'est pas grave. Moi j'adorerai toujours l'OM.
Ah ben voilà, des supporters, il y a de la relève dans les rangs marseillais. Alors des minots, et puis un qui n'est pas vraiment minot, mais c'est notre envoyé spécial à nous. Bonjour Eric Mamrut.
Oh, il est toujours jeune.
Ouais, bonjour, comment ça va? Cool.
Il a gardé son âme d'enfant.
C'est génial. Bah ouais, quoi, j'ai pas grandi moi.
Bonjour Eric. Alors Eric, c'est quand même prometteur, grâce à vous notamment, donc d'une bonne ambiance aux abords du Vélodrome qui s'apprête donc à accueillir Villarreal.
Bah déjà toute la ville attend ça, quand même une belle soirée européenne, un huitième de finale à jouer, alors qu'il y a encore quelques semaines, c'était tellement la déprime, la grisaille. Marseille n'avait plus à gagner un match, il y a 7 matchs d'affilée sans le moindre succès. Les entraîneurs qui se succèdent les uns après les autres sans trouver la, la bonne formule, j'aime même pas dire la formule magique, mais ne serait-ce que pour gagner un match. Et voilà, d'un petit pas que eh bien un papé, Jean-Louis Gasset arrive et là la machine redémarre un petit peu et redonne de la vie, de l'envie et du plaisir au public. Et c'est sûr que ce soir, les gens, tout le monde, les minots évidemment en tête, qui sera peut-être leur toute première dans ce magnifique stade Vélodrome, vont voir jouer l'Olympique de Marseille et avec l'envie donc de savoir est-ce que vraiment ce train marseillais est à nouveau lancé pour aller très très vite, aller très très loin.
Mmh, et pour leur donner le sourire. Une petite parenthèse au sujet de Villarreal, Éric Mamrut, à la tête de cette équipe, un certain Marcelino qui avait commencé la saison avec l'OM et qui était parti, qui avait un peu abandonné le navire à la veille du premier match de l'OM à Amsterdam. On s'en souvient, hein, les joueurs partaient dans un sens et lui dans l'autre. Et il était parti après seulement 7 matchs de championnat.
Oui, il va un petit peu contribuer justement à ce que l'ambiance soit surchauffée ce soir, car les supporters ont déjà prévenu. Eh bien, on va lui faire sa fête un petit peu à Marcelino. Il sera hué, il sera sifflé, évidemment. Ici, on n'a pas du tout apprécié la manière avec laquelle il a pris ses valises tellement rapidement, et à la suite d'une réunion avec des supporters, avec la direction. Et lui, il a cru que tout le monde allait partir avec lui, le président, son ami Pablo Longoria avec.
Son
mais
ami,
il
oui.
a laissé partir. Vas-y, passe devant, je te suis. Et Longoria, il n'a jamais suivi. Et Marcelino, il s'est quasiment retrouvé tout seul à partir en disant que les conditions ici ne sont pas réunies pour bien travailler. Il a même après ajouté, créé un projet à l'OM est impossible, un club manipulé par quelques-uns, il y a des supporters radicaux. Donc évidemment, ces déclarations-là n'ont pas du tout plu ici sur la Canebière. Et donc même si lui, en conférence de presse, a essayé de dédramatiser, de dire c'est du passé, tout ça, on espère un match magnifique dans ce magnifique vaisseau du stade Vélodrome, eh bien, il sera accueilli comme il se doit ce soir.
Oui, un sous-marin dans un vaisseau. Jacky Bonnevet, vous qui connaissez bien quand même Marseille, qui avait connu le Vélodrome, même s'il n'avait pas la forme qu'il a
c'était
aujourd'hui.
Pas le même, hein.
Non, je sais bien. Il a évolué, mais bon, la pelouse reste la même peut-être.
L'ambiance aussi.
C'est un stade à part aujourd'hui encore en France pour vous.
Ben oui, parce qu'il est pratiquement toujours plein, un public de connaisseurs, un public pas très indulgent et qui a de la mémoire, mais qui apprécie les bons joueurs. Et c'est pas toujours évident quand on est joueur d'être en confiance là-bas. Quand on a des périodes difficiles, c'est dur à surmonter dans un tel stade. Mmh. Mais c'est vrai que l'ambiance est exceptionnelle. Et puis surtout l'avant-match avec les tifos, avec la musique, avec cette musique jump à l'entrée des joueurs qui
ça
a été instauré par Bernard Tapie l'année où ouais. il a pris l'Olympique de Marseille. J'en étais le capitaine, je m'en souviens très bien. Donc c'est bien sûr l'Olympique de Marseille, c'est quelque part à part dans le monde du foot au niveau de l'ambiance. Je dirais que peut y ressembler Lens, je dirais Lens Saint-Étienne, ça ressemble un petit peu à ce public passionné.
Ouais. Philippe, cette histoire Marcelino, ils l'attendent un peu au coin du bois alors qu'en fait l'histoire, on n'a vraiment pas eu totalement les tenants et les aboutissants. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a.
Oui, enfin, Eric l'a un petit peu diminué, cette histoire, en disant qu'il était le seul à être parti. C'est pas vrai. En fait, tout l'entourage de Pablo Longoria est parti. Seul Pablo Longoria est encore là, parce qu'il a un contrat un petit peu léonin. Alors, c'est le principal, Eric a raison là-dessus. C'est vrai que c'est le principal, mais beaucoup de gens sont partis suite à ces discussions avec les supporters, dont Marcelino avait déduit que finalement il n'y avait rien à faire dans un club pareil où finalement les supporters avaient une incidence, une influence néfaste très très forte. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre que Marcelino, mais qui n'était pas à la réunion d'ailleurs, hein, qui n'était pas à la réunion avec les,
oui,
la fameuse réunion avec les supporters.
C'est pour ça que tout est un peu bizarre.
Mais il avait eu les échos et je peux comprendre qu'il se soit dit à ce moment-là, bon, il n'y a rien à faire ici.
Ou on lui a dit,
possiblement.
Et Dominique, mais on avait l'impression aussi que le personnage et le style de jeu ne collaient pas non plus tellement à Marseille. C'était peut-être plus ça.
Bah, les 7 matchs qu'on a vus avec Marcelino à l'OM, c'était austère, c'était triste. Les conférences de presse étaient ternes, donc c'est pas du tout le profil que nous a décrit Jacky, c'est-à-dire que c'est une ville éruptive, c'est un stade bouillant, c'est des supporters passionnés. Là, c'est un 4-4-2 immuable, vraiment tristounet, avec des conférences de presse sans entrain. Donc bon, la mayonnaise n'a jamais pris.
Le papé gassé, c'est plus entraînant.
Bah, ce soir, on aura quand même 3 des 4 entraîneurs de l'OM de la saison sur le banc. Quoi. Il y aura Jean-Louis Gasset, Marcelino, Pancho Abbandonado, l'adjoint de Gasset. Il manque plus Gattuso, s'il veut faire une petite apparition. Comme ça, on peut faire une belle photo. Quoi. Mais non,
c'est pas faux.
C'est assez cocasse quoi, comme situation.
Il n'y a que Marseille pour inventer ça.
Oui, c'est ça.
Bon, en tout cas, ce match survient alors que l'OM a donc encore une fois pour la quatrième fois de la saison changé d'entraîneur et on a pour l'instant donc Jean-Louis Gasset et pour l'instant on peut rajouter tout va bien, 3 matchs, 3 victoires, 12 buts inscrits avant la rencontre de ce soir, mais là quand même on atteint un autre niveau et celui qui s'en rend compte c'est Quentin Merlin arrivé il n'y a pas très longtemps sur la Canebière et qui s'attend à un match difficile, il l'a dit à votre micro Éric Mamrut.
Ça va être un match très difficile, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ces compétitions-là, qui a de l'expérience, avec une attaque qui marque des buts, qui a marqué 5 ce week-end dernier, donc une équipe, on va dire, qui est en confiance sur le match dernier. Donc ça va être un match disputé, qu'il faudra être un match engagé, où il faudra répondre dans les présents, et puis après, ce sera à nous de bien entamer le match. La confiance, on va dire, qui est présente, on travaille bien en entraînement, on est préparé à faire un gros match pour prendre une bonne option sur le match retour la semaine prochaine.
Éric, cette équipe, elle a retrouvé donc une certaine confiance en elle. Est-ce que vous l'avez senti hier dans cette ville, ou aujourd'hui d'ailleurs, et dans les conférences ?
La ville de Marseille ou de Villarreal ?
Non, la ville de Marseille, bien sûr.
De Marseille, oui. Oui, bah oui, mais on l'a vu, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 victoires en 3 matchs, mais surtout ces 12 buts marqués. Alors, c'est vrai, les adversaires, on pourra dire, évidemment, ce n'est pas des foudres de guerre. Le Shakhtar Donetsk, Montpellier et Clermont, mais quand même, mettre 12 buts, alors que juste avant, on n'avait pas réussi à gagner un match pendant très longtemps, ça montre qu'il se passe effectivement quelque chose. Grâce à la méthode Gasset, ça c'est, il faut lui reconnaître ça. Il a su écouter ses joueurs, leur parler, leur redonner confiance, les rassurer, les piquer aussi, parce qu'il n'a pas fait que les caresser dans le sens du poil. Il leur a dit, bah, il faut faire plus maintenant. Vous n'allez pas attendre un cinquième entraîneur. Maintenant, il faut vraiment s'y mettre et il faut donner plus. Tout en demandant de l'intensité, mais en variant avec un peu plus de jeu aux entraînements. Vous voyez ce mélange de bienveillance, en même temps en essayant de connaître le mieux possible à qui il avait affaire. Il s'est vraiment renseigné un petit peu partout pour connaître davantage les joueurs qu'il connaissait pas tant que ça. Et ça, les joueurs l'ont senti tout de suite. Et donc, ils ont été très réceptifs à son discours. Et donc, ça a marché. La confiance est revenue. La dynamique a été réenclenchée. Au niveau du jeu, c'est plus percutant. Il y a plus d'efficacité. Donc, c'est à confirmer ce soir face à effectivement une équipe qui a sur son CV plus de choses, en tout cas ces dernières années, que l'Olympique de Marseille, même si on peut en parler ces derniers mois, c'était compliqué pour le
moment. Oui, parce qu'eux aussi ont changé d'entraîneur. Jackie, cette méthode Gasset, vous la voyez, vous la sentez ? Qu'est-ce que c'est ? Vous qui travaillez avec des entraîneurs qui ont parrainé actuellement en formation, qu'est-ce que un changement d'entraîneur, on se dit c'est une figure qui change, c'est une ambiance qui change, c'est tout qui change.
C'est une atmosphère et Jean-Louis, pour bien le connaître, il est quand même très à l'aise dans des scénarios d'urgence pour aménager un terrain propice à la performance. Quand je dis ça, je veux dire, il a soigné les têtes, on l'a dit, il a mis les joueurs dans des choses simples et surtout à leur place, ce qui n'était pas toujours le cas. Il a essayé de leur donner confiance au départ. Après, bien entendu, que j'oublie pas non plus qu'ils ont fait 3 matchs, pas contre des têtes d'affiche non plus.
Ah oui, c'est ce que disait Eric.
Ils ont joué Montpellier en grosse difficulté, qui joue pour se maintenir. Clermont-Ferrand, avec notre ami Gastien, qui est une équipe en difficulté. Je crois que ce soir, ça va déjà être un bon test pour savoir où ils en sont exactement. Alors, c'est vrai que, on parlait de la formation des entraîneurs, nous, ce qu'on enseigne déjà dès le départ, c'est, avec un groupe, comment on va vivre ensemble avant de savoir comment on va jouer ensemble. Parce qu'il y a toute une vie hors du terrain. Comment on va vivre ensemble? Comment ça va s'harmoniser ensemble dans tout ce qui est fonctionnement? Et après, quand on a mis ça en place, comment on va jouer ensemble. Ça, c'est le plan de jeu. C'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Vous voyez, pour qu'il y ait une espèce d'harmonie, de bien-être, de confort moral. Et Jean-Louis, ça, il le fait à merveille dans un temps record. Et après, ben, il y a des synergies qui s'enclenchent, comme ça a pu être le cas à l'image d'Aubameyang ou à l'image d'autres joueurs qui retrouvent une certaine confiance. Donc lui, il a été à la recherche de ça. C'est ce qu'on enseigne, entre guillemets. Après, un entraîneur, on l'a dit souvent, c'est un conteur d'histoire. Ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire qu'il essaie d'amener les joueurs à une certaine harmonie pour être bien ensemble. Et ça, je dois reconnaître qu'il le fait remarquablement bien.
Mm-hmm. Jean-Louis Gasset, il a eu longtemps à Nîmes une carrière d'adjoint, notamment de Laurent Blanc.
Au Paris Saint-Germain.
Et en équipe de France, est-ce qu'il intéressait, c'était de rentrer dans la tête des joueurs? C'est-à-dire que l'entraîneur, bon, il définit l'équipe qui joue, la tactique. Jean-Louis Gasset, il s'occupait à la fois des remplaçants, ceux qu'il faut surveiller parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ne jouent jamais, ou moins. Et puis les titulaires qui peuvent toujours avoir un problème, un fils qui est malade, une femme avec qui s'entend moins. Donc il faut toujours surveiller, comme le lait sur le feu, les footballeurs, parce que c'est une fragilité, c'est une mécanique. Et donc il adorait connaître toute la vie, tout l'aspect, rentrer dans les têtes, un peu psychologue. Et je pense que à l'OM, après la méthode Gattuso qui n'a pas fonctionné, un problème avec Klaus qui est quand même un des meilleurs joueurs de l'effectif, un truc un peu incompréhensible de contrat, bon, qui a été initié par Longoria.
Oui, et Benatia, c'était pas...
Et Benatia, tout le club a l'impression avait pris comme tête de turc Klaus. Lui, il a ramené vraiment, comme tout le monde l'a dit, Eric et Jackie, de la confiance, quoi. C'est-à-dire qu'on apaise, on met du baume, et tout
et
de suite...
Et on fixe sur l'objectif qui est de bien jouer.
Alors, ok, ils ont battu personne, mais avant, avec Gattuso, il y avait des matchs nuls contre Metz, contre Strasbourg, c'est-à-dire que même les petites équipes, ça marchait pas. Donc là, moi, je trouve que c'est bien d'avoir battu Clermont, d'avoir battu Montpellier, d'avoir battu le Shakhtar, même si le Shakhtar est en phase de reprise, le championnat est décalé parce que c'est... Voilà, donc c'est certes, c'est pas encore des faits d'armes, mais c'est pas mal.
Philippe, peut-être que l'OM, quand on entendait Jean-Louis Gasset en conférence de presse, il avait l'air de mettre une limite quand même à cette embellie et ce que disait Eric aussi, c'est-à-dire il les a un peu tensés. Il y a des limites notamment en défense. Il est conscient que l'équipe revient, elle marque des buts, pas mal, mais il y a aussi quelques problèmes.
Oui, c'est vrai qu'ils ont pris des buts à chaque match, genre un but à chaque match en tout cas. Mais est-ce que Jackie parlait de l'enseignement des entraîneurs? Parce que parmi de l'enseignement des entraîneurs, il y a aussi, quand tout va bien, c'est là qu'il faut tirer des sonnettes d'alarme, c'est là qu'il faut commencer à dire « attention, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça ». C'est facile à dire quand on gagne. Et donc, c'est très logique que Jean-Louis Gasset ait profité de cette période où tout va bien, apparemment, pour dire « attention, là, on s'est relâché, là, il y a eu ci, il y a eu ça, au prochain match, ça ne passera pas », etc. Ça fait partie des discours tout à fait logiques d'un entraîneur qui est bien dans sa peau, qui est bien à sa place. Et on ne l'a pas dit, mais c'est aussi pour lui un bain de jouvence fantastique de retrouver d'abord la Ligue 1 et puis de sortir d'une canne qui avait été extraordinairement éprouvante pour lui, où il avait l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Là, c'est tout l'inverse. Tout sourit, tout d'un coup, c'est grand beau. Et tout sourit, le football est merveilleux pour ça. Le football est merveilleux pour ça, il gomme tout, c'est terminé.
En plus, c'est à Marseille, quoi. C'est un club mythique français. C'est-à-dire qu'il revient, j'ai rien contre Lorient ou Brest, qui sont super.
Oui, il ne l'a pas entraîné.
Non, mais voilà, il revient à Marseille, quoi. C'est quand même... Après avoir fait Bordeaux avec Laurent Blanc, Paris Saint-Germain avec Laurent Blanc.
Montpellier, Saint-Etienne.
C'est pas mal quand même, Marseille. Non, comment tu refuserais Marseille, quoi.
Comme le dit Dominique, en peu de temps, il insiste sur le projet de vie, comment on l'a dit, comment on vit ensemble, pour le projet de jeu. Comment on joue ensemble. Et ça, c'est très important dans la vie de groupe, parce qu'on se rend compte qu'on s'entraîne une heure et demie par jour et qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc il a... je pense, retrouver, mis en place une stratégie pour que les joueurs soient épanouis, pour qu'ils jouent bien ensemble. Alors, c'est toujours plus facile quand on arrive, parce que ceux qui sont titulaires, ils veulent garder leur place. Ceux qui ne le sont pas espèrent la retrouver. Donc, ça crée une émulation. Et les premiers matchs, par statistique, sont toujours bons avec un nouvel entraîneur. C'est la durée qui est plus compliquée.
Et la limite, c'est que tout le monde pense que c'est pour préparer l'arrivée de Christophe Galtier la saison prochaine, avec les anciens dirigeants stéphanois qui sont à l'OM, et que donc on sait que Gasset, c'est un peu un intérim, c'est un peu une mission à court terme.
Ça, j'en suis moins sûr, par contre.
Ça, j'en suis moins sûr. Mais en général, les joueurs, ils profitent de la situation. S'ils savent que l'entraîneur n'est plus là dans trois mois, ils vont faire un peu les idiots dans quelques temps, quoi.
On verra.
En tout cas, cet atout dans cet effectif qu'il a essayé d'apaiser, eh bien, c'est évidemment Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un joueur qui a énormément, évidemment, joué en Europe et qui a une grande expérience dans les championnats européens et en Ligue Europa. Il est le meilleur buteur. Et on va l'entendre, Jean-Louis Gasset, parce qu'il l'avait évidemment repéré, ou en tout cas, il avait bien compris que c'était sur lui qu'il faut s'appuyer.
En une séance de travail, il a vu que je le connaissais par cœur. Parce que j'ai appelé les gens avec qui il avait travaillé pour me dire qu'il n'aime pas jouer là, il préfère partir de là, ok. Donc on arrive à trouver un consensus et le joueur, il sent qu'on a travaillé sur ce dossier et qu'on va le mettre dans les meilleures dispositions puisque c'est lui le buteur.
Après, il faut marquer. Il a l'air d'être dans les meilleures dispositions, Eric, parce qu'il ne cesse de marquer. Il a marqué 4 des 12 buts de l'OM ces derniers matchs.
Oui, il en est à 19 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Pour dire que ce n'est pas seulement depuis l'arrivée de Jean-Luc Gasset qu'il s'est mis à marquer, c'est sûr. Là, il est véritablement en bonne confiance, en bonne disposition et mis parfaitement sur le plan du jeu par Jean-Luc Gasset sur le terrain. Il est à l'aise, mais son début de saison a été un petit peu chaotique parce qu'il revenait d'une saison blanche quasiment avec Chelsea. Et donc, Il a mis quelques buts, surtout en Ligue Europa, donc là où il est devenu meilleur buteur de l'histoire. Mais en championnat, ça ne marchait pas trop. Et petit à petit, quand même, il a trouvé ses marques. Et c'est sûr que maintenant, il paraît être à plein régime. Et c'est un des leaders de l'équipe, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Sa bonne humeur, c'est un gosse encore un peu quelque part. Je ne sais pas si c'est un minot, mais on le sait, avec ses tenues extravagantes, ses voitures, ses baskets. Il a encore un esprit un peu d'enfant et c'est contagieux. Amin Harit disait tout le bien qu'il pense de lui, il l'a découvert, il est très surpris de voir que malgré tout son palmarès, tous les clubs qu'il a fait, aussi prestigieux les uns que les autres, il restait tellement simple, ouvert avec tout le monde, il rigolait avec tout le monde, il parlait avec tout le monde, il aidait les uns les autres. C'est vraiment un des leaders ce soir et les Espagnols s'en méfient terriblement.
On se souvient de lui quand on lui avait remis le prix Marc Vivien Foé ici, il était arrivé avec je ne sais plus quelle voiture. Une Ferrari ou je ne sais quoi, des baskets qu'on avait prises en photo tellement elles étaient originales. Philippe, l'international gabonais, son fil conducteur, c'est évidemment de marquer des buts. On le connaît pour ça. Dans tous les clubs où il est passé, alors je ne parle peut-être pas de Chelsea, mais les conditions étaient complètement différentes. Mais Jean-Louis Gasset, il a de la chance aussi de l'avoir.
Ah bah évidemment, il faut quand même des ressorts dans une équipe et au-delà du formidable placard à chaussures que j'avais découvert dans la maison de Pierre-Emerick, qui m'avait fait visiter son placard à chaussures, enfin son placard, un dressing à chaussures exceptionnel, vraiment incroyable. Mais vous m'avez perturbé un petit peu, mais sur le plan du jeu, il est évident que Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un atout fantastique. On l'a connu plus jeune, évoluant énormément sur sa vitesse. Et puis petit à petit, il est devenu ce qu'il n'était pas au départ, un buteur. Et il a commencé à aimer ça. Il a un père en plus qui avait la réputation d'être un défenseur, mais qui en fait était un avant-centre à la base et qui insistait énormément sur la qualité de gestes devant le but, etc. Et Pierre-Emerick, en fait, est très doué devant le but. Et on savait qu'il n'avait pas perdu ça. Moi, je pense juste que le début de saison, finalement, il était perturbé par revenir en Ligue 1. Ça faisait des années qu'il l'avait quitté. Il avait plus des repères de Première Ligue et autres. Et puis tout d'un coup, il retrouvait une ambiance qui était, en plus, qui était un peu délétère à Marseille, qui n'était pas tellement de nature à l'élever.
À le pousser,
et puis la Ligue 1, bon, bah, il y a des jours où, quand on compare à la Première Ligue, c'est un peu moyen. Le quotidien peut être un peu surprenant.
Après Arsenal, la Première Ligue, bon, Chelsea, il n'a pas beaucoup joué. Du côté de Barça non plus.
Mais quand on est un buteur à Nîmes, on restera un buteur toute sa vie.
Il est devenu, lui.
Oui, il est devenu, mais je veux dire, il n'est pas devenu.
Il marquera partout,
jusqu'au bout. Il sera un formidable buteur. Pour moi, c'est le seul joueur de classe mondiale de l'effectif de l'OM. Je pense. De classe mondiale,
ça c'est dit. Le seul. Hein, vous aussi, Jackie, vous pensez ça?
Aubameyang, je le connais bien parce que... Alors, je n'ai pas vu son placard, son dressing à chaussures à Dortmund, mais je suis allé souvent à Dortmund parce que je supervisais à ce moment-là Kagawa, pour l'équipe nationale du Japon.
Ouais,
et
quand
donc,
vous étiez adjoint
je le voyais régulièrement à la fin des matchs, on discutait. C'est vrai que c'est un charmant garçon, très souriant. Moi, la question que je me suis posée quand il est arrivé à Marseille, est-ce qu'il y a encore de l'essence dans le moteur? C'était un petit peu cette question. On se rend compte que c'était peut-être pas ça, parce que ça a l'air d'aller. Je crois que c'est plutôt un positionnement. C'est-à-dire que quand on est avançant, 35 ans, on a peut-être moins de facilité, même s'il est toujours rapide, à répéter les efforts. Je pense qu'il faut qu'il soit très bien entouré. Il faut qu'il y ait autour de lui
exactement
des situations de soutien,
c'est ce qui s'est
d'appel. Il faut que le jeu ne soit pas avec deux ailiers et lui tout seul en pointe, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Mais dès l'instant où il est soutenu, ben, il montre toute sa qualité, toute sa percussion, toute son adresse. Et c'est vrai, tu parlais, Philippe, de son père. Moi, j'ai joué contre lui souvent, défenseur à Laval, connaît très bien. Mais pour revenir à Aubameyang, c'est vrai que l'importance, on s'en rend compte chaque week-end, quand une équipe joue, de valoriser le jeu par des buts. Combien d'équipes font des bons matchs mais n'arrivent pas à concrétiser? Et c'est ce type de joueur assez exceptionnel, on ne va pas revenir sur Kylian, mais des gens qui donnent confiance à des équipes en justement en concrétisant les situations.
Mais, et pour conclure là-dessus, Jackie parle de l'entourage. Jean-Luc Gasset, il a changé tout l'entourage de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a fait revenir Illiman Ndiaye, qui joue un peu en faux avant-centre. Il a fait venir revenir Sarr, qui était complètement à côté de la plaque. Ismaïla Sarr, qui était complètement à côté de la plaque. Retour de Kane, un peu déçu tous les deux, et besoin de montrer des choses. Et cet environnement nouveau a aidé beaucoup Pierre-Emerick à redémarrer.
Pour terminer, Eric, un petit mot quand même sur Villarreal. Villarreal, cette équipe qui a donc mal débuté sa saison, qui va un peu mieux, 12e en Liga, mais surtout, elle avait été demi-finaliste de Ligue des Champions il y a 2 ans et vainqueur de la Ligue Europa il y a 3 ans.
Oui, ça paraît loin, effectivement, mais belle carte de visite pour le sous-marin jaune qui, effectivement, depuis quelques mois, essaye de trouver la bonne carburation. C'est aussi un club qui a changé plusieurs fois d'entraîneur, car en début de saison, c'était Quique Setién qui n'a pas tenu longtemps. Après, il y a eu José Pacheta qui a donc été remplacé en novembre par Marcelino. Ça n'a pas tout de suite très, très bien marché, mais là, il reste sur une belle série de 7 matchs sans défaite, 3 victoires, 4 résultats nuls, avec donc 2 victoires très récentes et assez convaincantes à la Real Sociedad 3-1 et dimanche 5-1 face à Grenade. C'est un petit peu comme l'Olympique de Marseille, une équipe en pleine progression qui a envie de véritablement concrétiser cela et de passer encore un petit cap. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus d'expérience, on sent, du côté de Villarreal que du côté marseillais. Donc ça devrait nous offrir une belle partie ce soir.
Voilà, match retransmis sur RFI grâce à vous, Eric, en tribune. Il y aura aussi ici en studio Christophe Jousset et Naïm Moniol. Et ça sera à partir de 20h59, temps heure de Paris, 19h59, temps universel. Merci beaucoup, Eric, et bon match.
Ça
alors.
Va être génial. Ouais, cool. Salut les amis.
Salut, gamin. Minot. Le Minot, ma brute du côté de la Canebière. Merci beaucoup. Nous continuons en Ligue des Champions.
Ouais. Le très vilain geste de Vinicius qui pourrait pénaliser son équipe. Il s'en sort avec un carton jaune, Vinicius.
Il s'en sort bien. Moi, sur cette intervention de Kroos, là, pour moi, elle est absolument pas maîtrisée. Le pied en avant.
Ah oui. Très, très limite.
Oui, ils peuvent dire ouf les Merengues, mais ils sont là en quart de finale de la Ligue des Champions de leur compétition. Pourtant, vous venez de l'entendre dans ce petit résumé, ils sont passés pas très loin du gouffre, arrachant difficilement ce match nul contre le RB Leipzig. Une équipe très poussive et qui n'a pas bien joué, reconnaît, écoutez-le bien, Mister Carlo Ancelotti.
On n'a pas bien joué, on est critiqué parce que, je le dis une fois encore, lorsque nous avons petit avantage, nous ne savons pas le gérer. Du point de vue mental, ça n'a pas été bon non plus. Peu de pression sur l'adversaire, un manque d'intensité. J'ai peut-être fait une erreur avec l'once de départ. Je voulais mettre de la vitesse et de l'énergie, et c'est ce qui nous a fait défaut. Ce sont des aspects qu'il faut améliorer. Nous devons faire notre autocritique et bien cibler ce qui ne va pas.
Et Ils n'ont pas bien joué, mais ils ont encore eu de la chance, Philippe Toussaint, avec les décisions d'arbitrage.
Oh, c'est pas de la chance. On sait que les gros, partout dans le monde, sont arbitrés un petit peu différemment. Il y a toujours un petit peu, on a toujours un petit peu de gêne à mettre le rouge pour un joueur du grand club.
Vous l'auriez mis ?
Oui,
Auriez mis deux, un à Kroos et un à Vinicius.
Non, parce que Kroos, en fait, c'est une erreur d'arbitrage classique, c'est-à-dire l'arbitre ne met pas le premier jaune qu'il doit mettre. Et du coup, en déduire que donc, puisqu'il a fait une deuxième faute qui valait jaune, il aurait pris un rouge, ça c'est absurde comme raisonnement. C'est-à-dire que soit il aurait pris un jaune au premier, mais pas forcément, il aurait peut-être pas fait la même faute au deuxième, forcément, il aurait défendu différemment. Et en ce sens-là, le Real Madrid a eu un avantage. Sur le rouge, oui, je pense qu'on peut estimer qu'il y avait rouge,
Vinicius,
mais c'est pas non plus complètement catégorique, c'est pas non plus à 100%. Enfin, à mon sens en tout cas, ça pouvait éventuellement se discuter, éventuellement. Mais évidemment, comme c'est le Real Madrid, évidemment, comme c'est un gros...
Les auditeurs vont adorer ce que vous
évidemment,
dites. Philippe,
évidemment,
j'en suis sûr.
Comme c'est le gros, au dépend d'un petit qui, en l'occurrence, sur les deux matchs, aurait sans doute mérité de se qualifier.
C'est
parce
ça
que
aussi,
Leipzig
je crois que
meilleur.
C'est une accumulation de
faits. Leipzig a été meilleur que le Real, mais en même temps, ils n'ont pas les mêmes joueurs non plus, et pas les talents individuels qui font qu'ils ont marqué très peu de buts, alors qu'ils ont eu bien plus d'occasions que le Real.
Jackie parlait tout à l'heure des problèmes d'efficacité. Là, on est complètement sur les deux matchs avec un problème d'efficacité de Leipzig. Ils ont eu un nombre, il y a 9 arrêts de Lumine au match aller. Hier, il y a encore des occasions vendangées par Luis Openda. C'est dommage parce que dans le jeu, dans l'état d'esprit, dans le combat de la Ligue des Champions, dans l'intensité qu'il faut mettre, Leipzig était supérieur. Mais après, je ne suis pas complètement d'accord avec Philippe sur les erreurs d'arbitrage qui sont systématiques, pénibles. Au match aller, il y a un but refusé. Personne ne peut me dire aujourd'hui si c'était un hors-jeu, une charge sur le gardien. Il y a eu plusieurs versions qui ont circulé. La VAR, elle peut corriger si le jaune a été mis. Elle peut dire à l'arbitre, attention, c'est
elle
pas
peut.
Un jaune, c'est
elle
un
peut
rouge.
Ou pas.
Ce n'est jamais avec Carvajal au match aller sur Xavi Simons, avec Toni Kroos hier, avec Vinicius. Elle n'intervient jamais. C'est-à-dire que la VAR, qui a été aussi inventée pour limiter les injustices. Là,
mais c'est un
marche.
Gros complot
ça...
pour favoriser toujours le Real.
Tous les trois match, il y a un problème d'arbitrage avec le Real.
Mais non, mais parce qu'on les regarde différemment, évidemment. Vous croyez que Reims se plaint
Sergio
pas quand
Ramos...
ils jouent le PSG, Reims se plaint aussi, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça.
D'accord.
Et c'est pareil dans tous
moi,
les pays.
Je parle de la Ligue
Inter,
des Champions.
Milan, vous prenez tous les matchs je de tous les championnats, non, c'est
oui.
vieux comme le monde.
Oui, mais non, mais parce que le Real s'est fait dit qu'il s'est fait avoir dimanche dernier en
oui,
championnat.
Oui, absolument. Bah oui, c'est pour non, ça que
apparemment l'arbitre a été sanctionné.
Chaque club au monde peut dire mais moi j'ai été volé tel jour, j'ai eu ceci là. Tous les clubs de l'histoire du foot.
De Ligue des Champions. Et je parle sur ces dernières années. À part celle gagnée au Stade de France quand il y a eu 30 minutes de retard, parce que nous, on n'est pas capable d'organiser une finale de Ligue des Champions, mais c'est un autre problème. À part cette Ligue des Champions-là qui est incontestable avec Vinicius.
Pas du tout. Les pénalités contre Manchester City, t'étais d'accord ?
Non mais
un à l'aller, un au retour. Tu veux qu'on les regarde à nouveau ?
Courtois, Benzema, Vinicius, une équipe extraordinaire. Mais sinon, chaque année, Sergio Ramos pendant des années a fait ce qu'il voulait avec les arbitres pendant des
il
années.
Il tire les bras à Salah en finale.
Salah, il lui a déboîté l'épaule.
Tu es en train de nous raconter l'histoire du football. L'histoire du football,
du Real Madrid.
Non, c'est l'histoire du football.
Bon,
c'était pas comme ça. L'AC Milan d'Arrigo Sacchi, c'était pas comme ça.
Jackie.
Non. Ok, contre-exemple peut-être.
Jackie.
Mais ils ont eu aussi leur lot d'avantages.
Le Real n'était pas séduisant hier, ça c'est moins qu'on puisse dire.
Même Carlo, il l'a dit.
Et puis ce qui est extraordinaire, c'est Ancelotti. Quoi.
Ouais.
C'est la grande classe pour moi parce qu'il dit même, je me suis peut-être trompé dans mon début d'équipe. Je trouve que c'est assez hallucinant de la part de peut-être le plus grand entraîneur actuel,
mais
avec tout au moins le plus grand palmarès.
Ce qu'il veut peut-être dire, Jackie, parce qu'il fait une équipe hyper prudente au début au coup d'envoi,
il y a
ce qu'il veut peut-être dire qu'il sentait que son équipe n'était pas bien.
Peut-être, mais ils étaient laborieux, c'était compliqué, on se demandait même, quand je reviens sur Aubameyang, il leur fallait simplement, les psy, qu'un joueur qui marque, ça va leur donner encore plus de confiance. Pour revenir au pénalty, moi j'ai pas compris, j'attendais de voir le rouge tout de suite, parce que quand on voit le ralenti, il y a deux fautes. Il le pousse, il se relève, il le repousse. Il ne prend pas de rouge. C'est vrai que c'est hallucinant.
C'est que c'est lui qui marque en plus. Après.
Et en plus, c'est lui qui marque. Mais ce que j'ai apprécié, c'est la sportivité de Leipzig qui n'a pas cherché à se plaindre, à tricher. Ils ont continué à la dernière minute, contrôle poitrine, frappe sur la barre, même si c'est le dessus de la barre. Mais c'est vrai qu'il va falloir que le Real, actuellement, ils ne nous font pas vibrer. D'ailleurs, il y a eu ces fameuses broncas. Mm-hmm. Tu dois être peut-être plus habitué que moi d'aller là-bas, Dominique. Mais c'est
un
vrai que.
Très exigeant, ouais.
Ah oui, mais ils ont, très exigeant. Eux, il leur faut du très très haut niveau. Et on parlait de l'Olympique de Marseille qui est connaisseur, celui du Real est tout autant.
Mais qu'est-ce qui leur manque en ce moment au Real ?
Je me dis, Annie, juste pour finir le débat sur l'arbitrage, si ça arrive à un club français, aujourd'hui on parle que de ça. Le Bild a titré hier soir scandale.
Furieux en Allemagne.
Voilà. Donc, si ça arrive à Lens,
c'est comment
ou
scandale
au Paris,
en allemand ?
Scandale. si ça arrive à Lens ou au Paris Saint-Germain, on ne parle que de ça. C'est-à-dire le gars
mais
qui doit être expulsé. Mais bon, qu'est-ce qui leur manque
entretient les parano habituels.
Beaucoup de joueurs, Ali, ils ont quand même beaucoup de blessés toute la saison. Il y a encore Alaba, il y a encore Courtois, il y a encore... Bellingham n'était pas là au match aller, il est revenu là pour le match retour. Il fait une passe extraordinaire pour Vinicius. Il leur donc manque un peu des joueurs. Nacho, qui joue en défense centrale, il commence un peu à faire son âge. Il leur manque peut-être un peu de puissance physique. Est-ce que ces équipes-là, on est le match a lieu le 6 mars... Est-ce que ces équipes-là se disent la vraie saison, elle commence en avril ?
9, 10
quart, demi, finale, sprint final du championnat.
C'est un peu tard quand même, non ?
Est-ce qu'elle ne sera pas un peu plus prête dans un mois ?
Non, mais il y a eu aussi beaucoup de blessés. Alors hier, ils ont fait jouer Rüdiger, mais Rüdiger est revenu de blessure.
Non, ils ont des gros problèmes de blessure.
Voilà, le gardien, même si l'autre est très bien, mais Courtois, tout ça.
Oui, Lounine, très bien. Ouais. Mais non, ils ont des gros problèmes de blessure qui entraînent des gros problèmes de défense.
Voilà.
Et qui entraînent un déséquilibre de l'équipe. Du
et
coup,
de rotation.
Du coup, un milieu plus prudent. Du coup, un Ancelotti qui fait une équipe hyper prudente. En densifiant énormément son milieu, mais du coup, offensivement, il n'y a plus rien. Et oui, c'est évident que le Real, en ce moment, et physiquement, ils ne doivent pas être très très bien parce qu'ils se jouaient à deux à l'heure pendant la majeure partie du match. Ils ont été un peu mieux en deuxième, mais dès qu'ils ont été un peu mieux, ils se mettaient aussi en danger sur les contre-attaques. Donc on sentait que physiquement, ils n'étaient pas très bien. Non, ils ne sont pas très bien, mais méfions-nous, parce que Dominique peut témoigner que quand on les a vus au parc...
Un animal blessé,
il y a deux ans,
quand
on les a vus au parc en février, fin février au parc, on s'est dit, oh là, mais c'est ça le Real, c'est rien du tout. Ça va être facile. Bon, ils ont gagné cette Ligue des Champions en 2022, parce que bah, y a une culture... alors vous estimez que c'est une culture de l'arbitre. Je dirais qu'il y a quand même aussi il y a aussi une culture du haut niveau qui fait qu'ils sont capables, si ça se trouve, dans 15 jours de faire un match remarquable en quart de finale où on aura tout oublié.
Non, mais c'est la capacité de ces équipes d'exception. Ils ont une espèce d'ADN à la Champions League. On a l'impression que rien ne peut leur arriver.
Et pourtant, hier...
Ma télé, hier, je me disais, mais bon, comment ils vont faire pour ne pas faire peut-être les prolongations. Et puis, on va se rendre compte progressivement qu'ils passent dans la difficulté. Et puis que le match d'après, ils vont se mettre au niveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis qu'ils vont repasser. Puis on va aller peut-être les retrouver encore en finale. Alors qu'actuellement, on se dit, bof, ils sont coussi coussa.
Ils sont caméléons, ils s'adaptent à l'adversaire, ils se mettent un petit peu plus au-dessus. À l'aller, ils ont subi donc un énorme d'occasions et Brahim Diaz a marqué un but fantastique. Ils s'adaptent, ils se mettent un petit peu plus au niveau. Là, ils étaient dominés et hop, Bellingham, Benicius, bam, 1-0. Donc là, 1-0, t'as gagné 1-0 le match aller. T'es un peu tranquille, le but, l'égalisation les a un peu fait trembler, mais pas parce qu'à la fin, il y a eu quoi ? Il y a eu prolongation, il n'y aurait pas eu qualification de Leipzig. Donc ils sont tranquilles, quoi, en fait.
Ceux qui sont tranquilles, ce sont les Citizens qui, eux aussi, sont en quart de finale pour la 7e année consécutive, comme le PSG. Enfin, pas consécutive, le PSG, mais une 7e qualification.
En
12 ans.
En 8e de finale, le PSG, tous les ans, 8e de finale. Mais en quart, pas toujours.
En quart, voilà. On en parlera demain de cette équipe de City, parce que si elle a la tête déjà en field, notamment Pep Guardiola, bah nous aussi, demain, on parlera de ce Liverpool-Manchester City qui nous attend pour le week-end. Pour l'instant, on va revenir à un qui pourrait changer l'attaque du Real Madrid, mon cher Dominique.
On a vendu Kylian Mbappé moins cher qu'une pasta box. La saison prochaine, dis-moi c'est qui va faire la même chose que Mbappé.
Petite trouvaille.
Bah écoutez, rien que pour ça, il faut qu'ils en aillent, pour qu'on arrête ce genre de chansons, quoi. Que les chanteurs français ça arrête de faire ce genre de choses.
Alors je sais pas si on va le hisser au rang de chanteur, Dominique. Il s'appelle La Cagoule, donc il est bien caché.
Oui, bah faut qu'il la remette.
Et donc, il a l'air d'être un supporter du PSG, parce que ça le fait beaucoup pleurer, toutes ces rumeurs. En tout cas, ce match en Espagne a provoqué un véritable enthousiasme autour de Kylian Mbappé. D'ailleurs, son adversaire, tout simplement, de la Real Sociedad, Oyarzabal, a dit « c'est un joueur unique ». Alors, la presse, vous avez dû la lire autant que moi, hier en Espagne. Marca, alors, la presse madrilène, bien sûr, parce que la presse catalane, elle a fait un peu la fine bouche, elle a dit « mucho Mbappé, trop de Mbappé », oui, évidemment, pour les adversaires.
Ah, il se prépare, alors.
Oui. Marca, c'est Mbappé est imparable, et de rappeler, il a marqué 7 buts en 5 matchs en Espagne. Alors, c'était le démolisseur, Madrid est fou de Mbappé. Le trident Mbappé, Vinicius, Bellingham va occuper les 3 places du Ballon d'Or la saison prochaine. Et Madrid va avoir un sacré problème, surtout avec Bellingham venant de l'arrière. Et même notre ami de Chiringuito, vous savez, tic-tac, tic-tac. Alors lui, il a dit, ça c'est mon Mbappé en voyant Mbappé marquer et être aussi bon. Hein, ils l'attendent déjà, donc apparemment. Dominique, les confrères espagnols, ils vous ont parlé de lui, vous ont questionné sur lui. Ils savent que vous savez tout sur Mbappé.
Bah oui, oui, c'est une attraction. Il est né pour ça, Kylian Mbappé. C'est un joueur à part qui attire les regards. Il est clivant. Il y en a qui le trouvent hautain, prétentieux. Il n'est jamais personne indifférent. Il s'assoit en tribune à Monaco à côté de sa mère quand les autres vont s'asseoir les remplaçants avec les remplaçants. Donc voilà, il fait rien comme tout le monde. Donc c'est un personnage qui fascine. Et quand il joue au foot et qu'il est bon, bah il fait des matchs que personne ne voit. Moi, je suis désolé. Le premier but qu'il met au Stade Anoeta, il est fantastique. La façon dont il s'agrandit l'angle pour puis après la frappe soudaine, c'est inimaginable, but, on dirait qu'il fasse ça. Personne n'a imaginé qu'il allait mettre ce but. Je crois que même ses partenaires étaient surpris. Donc oui, c'est l'attraction permanente. Mbappé, quand il n'est pas bon, les gens se disent, mais pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il est normalement, il doit être bon. Donc il y a toujours une interrogation sur lui, quoi.
Et qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les confrères?
Il demande comment faire pour avoir accès à Mbappé, comment on fait pour l'interviewer, qu'il faut avoir dans son entourage pour qu'il nous parle.
Vous n'avez pas dit, bien sûr.
Comme s'il fallait que je lui donne mes sources. Voilà, et puis est-ce que c'est sûr qu'il va au Real Madrid? Est-ce qu'il a déjà signé son contrat? Alors, si je le savais, je l'aurais déjà écrit, évidemment. Je ne vais pas leur dire des choses que je n'écris pas, je pense quand même qu'il n'a pas signé son contrat, contrairement à ce que Marca a écrit, d'ailleurs, il y a 2-3 semaines, puisque les négociations se poursuivent. Alors, il n'y a que là où il veut aller. Hein. Il a dit à son entourage, d'abord, je vais à L'Oréal, en plan B, je vais à L'Oréal, et en plan C, je vais à L'Oréal. Bon. A priori, ça devrait finir en Real. Mais ça négocie toujours.
Alors, on ne sait pas où il jouera la saison prochaine, mais quelle suite dans la saison de maintenant? Est-ce que les matchs de Kylian Mbappé vont être limités à la Ligue des Champions? Les dirigeants, on les a entendus après le match. On a entendu le président Nasser El Khelaïfi, on a entendu aussi Luis Enrique dire « Non, il est très bon, c'est très bien, il est le numéro un, il est le meilleur. » Mais on prépare la saison prochaine. Et Mbappé, d'ailleurs, il a glissé ces quelques mots qui nous ont amusés et qu'on réécoute.
Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un.
Alors, il a bien des problèmes, Kylian Mbappé. Écoutez, on a tous des problèmes, mais
oui.
J'imagine que lui...
Je pense qu'il vise le club. On sait que pour qu'il rejoue au foot, c'est quand même le seul joueur au monde qui, pour rejouer au foot en début de saison, a dû payer. C'est-à-dire qu'il a abandonné des primes. C'est comme ça qu'il est sorti du loft et qu'il a pu...
Il a été moins payé, disons.
Il a été moins payé, mais il a quand même... Non, mais je connais peu de joueurs qui abandonnent. Il a abandonné entre 100 et 150 millions d'euros. Et ouais. Là, visiblement, ils sont encore en train de négocier avec le club pour qu'ils puissent... Comme il n'y aura pas de transfert, le PSG veut retrouver un peu d'argent. Alors d'habitude, un joueur qui part comme ça, c'est 150, 200. Là, il faut qu'il abandonne des futures primes ou des futurs salaires. Et donc, je pense que c'est ça qu'il évoque quand il dit « j'ai bien des problèmes ». J'imagine que, vu qu'il ne parle jamais de sa vie privée, j'imagine qu'il parle de ses problèmes contractuels avec le club. Mais et en revanche, quand il dit qu'il n'a pas de problème avec le CNC, c'est vrai. C'est quelqu'un qui il a une bonne relation, quoi. Ça ne veut pas dire que ça va bien se finir là, puisqu'il y a un match dimanche contre Reims en championnat, peut-être qu'il ne va pas jouer, et ainsi de suite. Lui, il a envie d'être meilleur buteur de la Ligue 1. Il a beaucoup d'avance sur la Cazette, mais il aimerait quand même accentuer, mettre des buts. Il ne jouera pas beaucoup, peut-être, la fin de saison. Mais voilà, il a
tu
vraiment...
Tu veux dire qu'il faut qu'il abandonne à nouveau des primes pour pouvoir faire plus de temps de jeu en championnat?
C'est ça. Il paye chaque minute.
c'est possible que le PSG lui demande, puisqu'ils sont vexés qu'il s'en aille, qu'il ne prolonge pas son contrat, qu'il lui demande d'abandonner encore plus de primes.
D'accord.
C'est un club spécial. Hein.
Pour, ouais, vraiment. Pour vous, l'entraîneur le sort librement, Jackie Bonnevay, il le sort librement à la 60e minute, à la mi-temps, tout ça. Et il n'y aurait pas de problème de la part de Mbappé qui, on le sait, enfin, depuis qu'on le suit, en tout cas en France, dans les matchs, n'aime pas sortir. Mais c'est, alors qu'il est capitaine du PSG ou qu'il est capitaine...
Il déteste ça. Il veut finir brillamment en explosant toutes les statistiques. Les attaquants de ce niveau-là vivent pour ça. Par contre, si l'entraîneur estime qu'il n'est pas performant comme il ne l'a pas été énormément la dernière fois qu'il le sort, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est s'il le sort pour d'autres raisons que celle-là, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'est là qu'il y a eu le hic, on va dire. Mais pour revenir à Mbappé, moi, je trouve tout à fait normal qu'il ait envie de voir, sans vouloir faire injure, mais il en a peut-être marre d'aller jouer à Clermont-Ferrand, à Lorient, à Metz. Il a envie de découvrir,
ça
c'est bien normal,
ça fait 8 ans qu'il est en Ligue 1.
D'aller découvrir un autre championnat, des autres joueurs, un autre cadre. Ça me semble tout à fait normal dans sa progression, dans son évolution, et puis dans, dans l'envie de découvrir autre chose.
Mm-hmm. Philippe, on le verra que en Ligue des Champions, alors, si le PSG continue loin, Mbappé ?
Oh, je ne ferai pas de pari là-dessus, parce que comme Dominique le dit, c'est un club tellement étrange. À la fois dans sa communication, dans son comportement, dans son ego par rapport aux joueurs, que bon, c'est très difficile d'estimer qu'il y aura des pressions en ce sens-là, ou est-ce que Luis Enrique a pris des décisions techniques, en l'occurrence sur les deux derniers matchs. J'avoue que franchement, c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe dans ce club. L'entraîneur, si ça vient de l'entraîneur, au moins c'est à peu près clair. Je suis comme Jackie, il a très bien le droit de sortir Mbappé, pourquoi pas.
Je sais pas. Le faire rentrer, comme à Nantes.
Oui, et puis dans ce club, de toute façon, on estime que le championnat n'existe pas. C'est des préparations pour la Ligue des Champions. Donc à partir du moment où on a ce raisonnement-là, finalement, pour eux, ce n'est pas si important que ça. Mais bon, je ne pense pas que Luis Enrique raisonne comme ça. Je veux croire que c'est Luis Enrique qui a fait des choix techniques, en l'occurrence. Je veux croire ça parce que ça crédibilise l'entraîneur Luis Enrique. Je préfère croire ça plutôt que d'estimer que c'est un problème de contrat et que donc Luis Enrique, comme des petits entraîneurs, écoute le club et dit « Ah oui, vous avez raison, il faut le sortir. » Non, je ne crois pas à ça. Admettons que du coup, si Mbappé est performant, et du coup, il jouera. Il jouera les matchs de championnat aussi. Dominique, pas de raison.
Dominique, qu'est-ce qu'on sait ? Le président Nasser a dit, quand on lui a demandé s'il quittait le club, il est resté évasif en disant « le joueur ne veut pas communiquer ». Mais on sait qui a sorti cette information qu'un jour Mbappé est allé voir Nasser pour lui dire « je ne prolonge pas ». Ils ont l'air de laisser... On ne sait pas si ça vient de la part du joueur qui a l'air de se sentir trahi ou de la part du club.
Moi, je sais d'où ça vient, mais je ne peux pas le dire. Mais je sais...
c'est bien dommage.
Mais je sais que Kylian Mbappé considère qu'il ne devait pas communiquer sa décision juste après le match aller contre la Real Sociedad et que ça a été fait à son insu par le club. Il considère que les fuites viennent de la galaxie Paris Saint-Germain. Et donc, il est un peu énervé, un peu vexé. Parce que, on voit bien, vous avez la semaine dernière, après l'épisode de Monaco, vous avez un groupe de supporters, certes inconnus, mais qui a commencé à dire vivement le 30 juin Kylian Mbappé en disant du style un peu bon débarras. Je vous dis pas, Annie, si le 15 mars, Paris tombe sur le Real Madrid en Ligue des Champions, en quart de finale, parce que là, au moment où on se parle, c'est possible. Alors là, je vous dis pas la presse espagnole, je vous dis pas les Français qui vont nous faire croire que Kylian Mbappé ne voudra pas passer parce que c'est son futur club, donc il ne voudra pas gagner la Ligue des Champions, donc il va faire exprès de peut-être mettre des buts contre son camp, Donnarumma. On va vivre un moment, mais complètement
fou.
Il faut
qu'il revienne en défense sur les corners, voilà, sinon, si ça arrive.
Donc voilà, quoi. La situation, elle est ubuesque, mais dans un club qui est...
En tout cas, celui qui a annoncé ce transfert en février, c'est un criminel du football. Parce que ça entretient des débats absolument nauséabonds, insupportables. On serait bien passé de ça.
Une question dont personne ne parle. Il reste... libre là, mais et s'il a une éventuelle blessure, qu'est-ce qui se passe ? C'est la grosse question.
Eh ben on n'a pas de réponse. C'est la fin de Radio Foot et rendez-vous ce soir pour le match.
On va réfléchir à tout ça.